au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Pour faire écho à l'émission Au fil des pages consacrée à la nouvelle traduction des Mille et une nuits par André Michel, parue dans La Pléiade, émission que vous pouvez écouter ou télécharger dans la médiathèque de Canal Académie, pour donner une suite à cet entretien sur les Mille et une nuits, mais surtout pour vous offrir encore un moment de rêve, Canal Académie a le plaisir de recevoir Shirin El Ansari, chanteuse, conteuse, danseuse, une jeune fille égyptienne, contemporaine bien sûr, mais qui se réapproprie les contes des Mille et une nuits, qui a une technique très particulière dont elle va nous parler maintenant. Alors Ansari, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de présenter votre spectacle à la Maison des Cultures du Monde à Paris en mars 2006. Vous l'avez présenté aussi dans de nombreuses grandes villes françaises, Rennes, Bordeaux, Vitré. Et vous êtes aussi très souvent à l'étranger, en Angleterre, en Hollande, en Afrique du Sud, au Kenya. Au fond, vous faites un spectacle international, aussi international que le sont les Mille et une nuits. Comment procédez-vous? Quelle est votre technique par rapport au conte traditionnel des Mille et une nuits?
Oui, effectivement, l'idée c'est aussi que c'est un texte qui est universel et que c'est très agréable de travailler sur ce genre de texte qui est accessible à tous dans tous les pays, parce que ça, les sujets dont le texte traite sont des sujets qui sont très humains.
Comment travaillez-vous justement? Quelle a été votre recherche sur les Mille et une nuits?
J'avais pensé au départ, comme j'étais très jeune, que je pourrais prendre quelques contes qui me plaisaient et puis les travailler en 2-3 semaines et les présenter au public. J'avais 20 ans. Et puis quand j'ai pris le premier conte, je me suis rendu compte que,
le cas de le dire.
Voilà, que je voulais en savoir plus. Donc je suis partie dans les différentes bibliothèques pour essayer de faire des recherches. Et puis les recherches m'ont pris à peu près 4 ans.
Elles ont commencé quand ces recherches?
En 92, et c'est qu'en 96 que j'ai pu monter pour la première fois sur scène pour raconter les Mille et une nuits.
Alors est-ce que vous vous réappropriez ces contes? Donc vous ne récitez pas, vous ne re-racontez pas le texte tel qu'il est, mais comment faites-vous alors?
Je choisis le conte qui m'intéresse. C'est souvent des choix qui sont très instinctifs. Il peut y avoir une image qui m'attire ou la poésie qui me fait vibrer. Et puis à ce moment-là, je commence à le lire d'innombrables fois. Et puis à en sortir les passages qui me touchent, à les retravailler, à les dire pour voir ce que ça fait quand on les dit sans les lire. Et puis petit à petit, à les réécrire. Alors je lis en parallèle toutes les versions qui me sont accessibles en 3 langues pour voir, parce que souvent des choses peuvent être très belles en une langue et l'être moins en une autre langue. Donc voyager dans une autre langue sur le même texte, c'est découvrir des choses qu'on voyait pas dans la première langue.
Alors votre langue, on s'en doute, c'est d'abord l'arabe. L'arabe, oui. Égyptien, voilà. Littéraire aussi certainement, le français évidemment puisqu'on vous entend parler en français et l'anglais, oui. Je suppose. Alors vous prenez ces textes et vous dites que vous les réécrivez. Puis vous préparez autour une gestuelle, une symbolique, vous expliquez à vos spectateurs, comment faites-vous?
Non, ce que je fais c'est toujours très suggestif, donc il va y avoir aussi des passages que je vais complètement enlever, et j'aime bien garder un certain mystère. Donc il y a une sorte de complémentarité entre le vêtement que je porte, les choix de texte, la poésie et la gestuelle, et les gens vont, bon, évidemment le récit, la trame du récit est là, mais les gens vont construire aussi autour de cette trame des choses que je suggère à travers la gestuelle et à travers les choix que je fais.
Alors, Les Mille et une Nuits, c'est une œuvre très vaste. Il y a beaucoup de contes. Je suppose que vous ne les exposez pas de manière exhaustive. Vous avez fait un choix, comme vous l'avez dit.
Il faut toujours faire un choix, même quand on travaille sur un conte. parce que pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que si c'est pour ça que des gens essayent de lire Les Mille et Une Nuits et puis viennent me dire mais je me suis ennuyée, parce qu'en fait comme c'est des textes qui étaient racontés par différents conteurs, il y a des répétitions, et puis c'était à une époque où il n'y avait pas de télévision, donc on racontait tout au même rythme que la vie. Donc il y a des moments où on a l'impression que ça traîne. Donc en fait, il faut faire une sélection permanente des choses qui créent une image claire dans l'esprit de l'auditeur et du spectateur.
Alors Shirin Al-Ansari, est-ce qu'on peut dire que vous modernisez les contes, que vous les adaptez à l'époque contemporaine ?
Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on vit dans un monde, d'intégrer à son travail des choses qui nous touchent ou qui nous énervent ou qui nous mettent en colère. Donc c'est sûr que je pense que le travail de conteur, de toute façon, ne peut pas être dissocié de la vie qu'il mène et des choses qu'il affecte. Surtout quand on vient... Bah, je pense que de toute façon, c'est partout dans le monde, il y a des problèmes. Mais quand on vient du monde arabe et que beaucoup des contes se situent dans ces régions-là, on va lire le nom d'une ville et tout de suite, on a dans la tête tout ce qui se passe dans cette ville-là. Donc, on est obligé de l'intégrer. Sinon, c'est qu'on est aveugle et indifférent à son entourage.
Alors, vous vous situez donc dans la lignée traditionnelle des conteurs d'une autre époque, parce qu'aujourd'hui, il n'y a tout de même pas beaucoup de conteurs.
Il y en a plus qu'on ne le croit.
Oui.
Oui. Et il y en a aussi qui sont un petit peu dissimulés, c'est-à-dire qu'ils ont la même fonction que le conteur, mais qui ne sont pas forcément professionnellement des conteurs. Et puis, il y a aussi pas mal de conteurs professionnels, plus qu'on le croit. Je me situe dans la lignée des conteurs traditionnels par le fait d'exprimer des choses qui touche un certain nombre de personnes à travers l'histoire et à travers le conte. C'est-à-dire que la parole du conteur est une parole qui aspire à faire bouger les choses, à donner une inspiration au public pour lui donner envie de faire de changer le monde qui l'entoure ou ne serait-ce que même d'avoir un raisonnement par rapport à ce monde. Donc dans cette optique-là, je me situe dans la tradition du conteur.
Donc ça n'est pas une parole qui se contenterait de raconter une belle histoire, c'est une parole qui a une dynamique et qui veut entraîner les gens dans le monde où ils vivent, à faire quelque chose. C'est bien cela.
Pour moi, oui. Et puis aussi une parole qui tend à inspirer. L'inspiration, c'est très important. C'est ce qui fait que les gens ont envie de vivre, justement, de vivre avec plaisir, de vivre avec appétit et goût. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. C'est des contes qui sont très sensuels, très charnels, très excessifs. Et notre vie a tendance à devenir de plus en plus aseptisée. Donc j'essaye de donner appétit aussi à la vie.
Shirin Al-Ansari, est-ce que vous aimez lorsque l'on dit que vous êtes une conteuse ? Est-ce que le mot est vraiment approprié ?
Je trouve pas, mais en même temps, je crois qu'on est tous obligés de réagir contre les étiquettes qu'on nous met. Parce qu'une étiquette, c'est une petite prison. Donc, je crois que si on m'avait appelé autre chose, j'aurais eu les mêmes réactions et la même colère. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où on nous demande de se définir perpétuellement et d'une manière beaucoup trop stricte, à mon goût. Et moi, comme dans mon travail, j'utilise beaucoup le corps, j'aime aussi travailler le costume, les gammes de couleurs, qui souvent, dans la forme et la couleur, le costume aura un sens par rapport au texte. Donc on m'accuse souvent de ne pas être une vraie conteuse, parce qu'il y a aussi un travail sur le texte que je fais. Je j'improvise pas totalement sur scène. Mais moi, je pense que un véritable travail artistique demande à l'artiste de transcender son art. Et quand on voit un tableau qui nous touche, ce tableau, il a aussi un son, il a une odeur, il devient théâtre, il devient sculpture. Je crois qu'il faut transcender son métier, aller plus loin. Les boulangers sont des artistes.
Les conteurs aussi, à vous entendre. Combien de temps dure un spectacle de Shirin Al-Ansari?
C'est toujours dans la pensée des mille et une nuits, c'est-à-dire que ça peut être 10 minutes comme ça peut être 3 ou 4 heures. C'est des contes miroirs, des contes tiroirs. Il y a toujours une petite zone. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours ouvrir une porte et trouver un conte qui sort, qui va nous sauter à la figure. Donc ça va de 10 minutes à...
Alors moi je vous propose 10 minutes, Shirin Al-Ansari, pour vraiment nous faire aimer les contes. Et je vous écoute. Quel conte avez-vous envie de raconter sur Canal Academy?
Je vais raconter une histoire qui se trouve au début des Mille et Une Nuits et qui se trouve dans le cycle du portefeuille des Trois Dames. Et donc qui est l'histoire du premier jeune homme borgne, qu'on dit Sahalouk en arabe. Et il y a certaines personnes qui vont dire Calender, donc c'est la même chose, c'est Sahalouk, Calender, le jeune homme borgne, un des trois jeunes hommes.
On vous écoute ?
Bagdad. Trois jeunes hommes entrent dans la ville. Ils ont la tête et la barbe rasées, tous les trois, et sont borgnes, borgnes, de l'œil gauche, tous les trois. Ils portent la robe couleur vent de sable et le turban bleu crépuscule de ceux qui traversent les déserts. Bagdad. Les jardins merveilleux de Bagdad la Magnifique vous mèneront au cœur même de la vieille ville. Là, vous serez enfin en plein milieu du bazar coloré. Les commerçants souriants, accueillants, vous offriront le thé et vous proposeront des marchandises locales, artisanales. Vous êtes en plein commerce équitable. N'oubliez pas, marchandez. Et ce soir, rendez-vous pour un somptueux dîner à l'hôtel Haroun al-Rashid, au menu pâtisserie orientale. Trois jeunes hommes entrent dans la ville. Ils se ressemblent tous les trois et pourtant se rencontrent pour la première fois. Ils s'étonnent de se voir si semblables, si frères. Ils ont la tête et la barbe rasées et sont borgnes de l'œil gauche, tous les trois. Le premier jeune homme s'avance. Mon histoire est tellement extraordinaire que si elle était inscrite avec une aiguille au coin de l'œil gauche de celui qui ne l'a pas perdu, lui servirait de leçon toute sa vie. Je ne suis pas né borgne, je suis roi, fils de roi. Enfant, j'étais installé sur la terrasse du palais. Un oiseau est venu atterrir sur la terrasse opposée. J'ai essayé de l'atteindre avec mon arbalète, mais l'arbalète a atteint le grand vizir à l'œil gauche. Le grand vizir avait peur de mon père qui était un sultan tyrannique. Il n'a rien dit. Les années ont passé, et un jour, alors que je rendais visite au fils de mon oncle sultan d'un pays éloigné, le fils de mon oncle avec lequel j'avais grandi, nous étions même nés le même jour. Il était heureux de me recevoir. Il a fait égorger des moutons, il a servi des vins, des liqueurs. Et puis, quelques heures avant l'aube, il m'a dit « Yabna ammi, aizat lub mennak chez gharib, chez mohem. Aizak, t'khalli et kalem da ben nasser fa albak. Je vais te demander un service dont tu devras garder le secret dans le tombeau de ton cœur. » Et puis il a disparu. Et lorsqu'il est revenu, il avait avec lui une jeune femme drapée de noir, des pieds à la tête. On sentait son odeur merveilleuse et l'on entendait les cliquetis de ses anneaux et de ses parures sous le drap de soie. Il m'a dit, « Emchi ma sabay a dit, emchi l'rayet madinet el amouet. Alors je suis sortie, la jeune fille derrière moi. Nous sommes arrivés au cimetière, la cité des morts. Nous nous sommes installés sur un tombeau à attendre Ibn Ami, le fils de mon oncle. Une heure plus tard, il est arrivé. Il portait un petit sac, une hachette et une jarre. Il nous a demandé de le suivre et nous l'avons suivi. Il s'est arrêté devant un tombeau somptueux. Nous l'avons attendu sous le dôme et lui s'est mis à creuser. Il a retiré deux lourdes pierres. Il a soulevé un couvercle qui ressemblait à une porte horizontale et j'ai aperçu des petits escaliers qui disparaissaient jusqu'au ventre de la terre. La jeune femme a laissé glisser son voile noir et j'ai vu ma cousine, la sœur du fils de mon oncle paternel. Mon oncle l'a prise dans ses bras. Mon cousin l'a prise dans ses bras, il l'a embrassée dans le cou. Il lui a dit des mots tendres, des mots d'amour. Et puis, il lui a dit « Ma chérie, ya rouhi, ya albi, ya hayati, ikhtari, tigi maaya wala, tergaï al asre zaï zaman, ta'ishi hayatek al-adima. » Elle, elle n'a pas répondu. Elle l'a pris par la main et ils ont commencé à descendre les escaliers. Et puis, mon cousin s'est retourné et il m'a dit « Lorsque nous aurons disparu, tu refermeras le couvercle, tu reposeras les grosses pierres et tu recouvriras de terre comme si de rien n'était et tu garderas ce secret dans ton cœur comme dans un tombeau. » Et ils ont disparu comme avalés par le tunnel noir, avalés par la terre. J'ai replacé le couvercle et les pierres. Je les ai recouverts de terre et de sable. Et puis j'ai erré dans le cimetière toute la nuit, comme une âme en peine. Je suis rentrée au palais, mon oncle n'était pas encore rentré, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai couru au cimetière et là j'ai cherché le tombeau, mais je n'arrivais plus à le reconnaître parmi les autres tombeaux. Et pendant 7 jours, jour et nuit, j'ai cherché le tombeau, en vain. Croyant devenir fou, je suis retournée vers mon royaume. À l'approche du palais, j'ai été assaillie par 60 hommes comme des fauves qui m'ont lié les mains et qui m'ont traînée au pied du grand vizir. J'ai bien vite compris qu'il avait tué mon père et pris le règne entre ses mains. Le grand vizir a tendu son doigt vers mon œil gauche. Il a enfoncé son doigt tout au fond de mon œil. Il en a retiré l'œil. Il a éclaté de rire. Il m'a fait enfermer dans une caisse et emporter dans le désert. Une fois arrivé dans le désert, on a ouvert la caisse et j'ai vu le visage du porte-glaive de mon père. Il m'a dit « Yalla, egri rouh, enqiz rouhak, wenqizni ma'ak. Allez, bondis. Tu trouveras une autre terre que la tienne, tu trouveras un autre pays que le tien. Mais jamais, jamais tu ne trouveras une autre âme que ton âme. Sauve-toi et ne reviens plus jamais. » Ainsi j'ai marché des mois et des mois et je suis arrivée à Bagdad.
Merci Shirin Al-Sari, on vous écouterait nous aussi comme le roi ou le sultan ou le vizir vous écouterait volontiers. Pendant des nuits entières, en tout cas, nos auditeurs ne manqueront certainement pas d'assister au spectacle que vous donnerez tant en France qu'à l'étranger. Citons simplement en juin, vous êtes en Angleterre, en juillet à Mandelieu et en août, vous participez au Festival du Conte de Vassivière. Je pense que beaucoup de gens auront plaisir à vous entendre. Merci d'être venu nous faire rêver avec vos contes inspirés des mille et une nuits.
Merci à vous.